Ce matin, nous poursuivons notre série vitale sur les trucs qui sont vitaux pour Mosaïque. Je sais que ce matin, vous avez beaucoup d'attentes envers moi du fait qu'il y a deux semaines, lorsque Cathy a prêché, elle est arrivée avec un code QR pour le communautaire. La semaine passée, Pasteur Emmanuel a décidé de continuer ça avec un code QR pour les groupes éléments. Et là, vous vous attendez que je vous sorte un code QR ce matin. J'en ai pas. J'ai failli vous faire une blague, par contre. J'en aurais mis un, mais ça aurait été le menu de la cage au sport. Ça a pensé à ça. Mais je me suis dit, ouais, une prochaine fois. Une prochaine fois. Fait que pas de code QR ce matin. Fait que ça veut dire que vous gardez vos cellulaires dans vos poches. Je veux pas les entendre non plus. Donc, ce matin, on va lire dans Éphésiens 4, les versets 1 à 4. Ça dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ce passage-là, depuis des années, vous ne le savez pas, mais ça fait partie de mes prières pour Mosaïque. Ce passage-là qui nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour moi, ça, c'est quelque chose de vital. Parce que si on n'a pas l'unité de l'esprit, c'est inévitable que, tantôt, qu'est-ce qui va arriver? C'est des chicanes, des divisions, et toutes sortes de trucs qu'on ne veut pas. Mais malheureusement, trop souvent dans l'Église, c'est ce qui arrive. On se chicane pour des points virgules ou pour notre préférence ou pour un... peu importe, quelqu'un qui nous a tombé ses nerfs, quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on n'aimait pas. Et malheureusement, ça finit trop souvent. Et en fait, ça, l'unité, c'est la seule prière de Jésus qui n'a pas été répondue. Ouf! Jésus prie, puis il n'est pas répondu. Parce qu'en fait, dans Jean 17, les versets 20 à 23, ça dit, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est fou, cette prière-là encore, plus de 2000 ans plus tard, elle n'est pas répondue. Parce que c'est pas vrai que malheureusement, c'est le désir dans le cœur de Dieu pour être unis, mais on dirait qu'on travaille plus à n'importe quoi d'autre qu'à l'unité. Et moi, une des choses, c'est ça qui m'a fasciné, c'est que quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai commencé à fréquenter l'Église, là, tu vas dans une église en particulier, qui est d'une une couleur en particulier, d'une dénomination en particulier, et à cette époque-là, on faisait tout pour te dire comment est-ce que nous, c'est nous qui détenons la vérité. Nous, on a l'affaire. Mais eux autres là-bas, eux autres là-bas, eux autres là-bas, non. Et moi, ça me fascinait. Je me disais, OK, hey, wow, finalement, il n'y a pas... OK, mais les autres, ils aiment Jésus aussi, mais ils ne sont pas avec nous, comme on est en chicane avec eux autres. Puis je ne comprenais pas tout ça. Et ensuite de ça, je suis devenu pasteur de jeunesse. Et là, avec il y a toutes sortes de divisions, de trucs qui étaient là. Et malheureusement, moi, je me suis retrouvé pasteur de jeunesse au moment où la jeunesse se vidait. Il y a des familles qui partaient. Et là, je suis arrivé juste avec un petit groupe de jeunes. Puis même moi, à un moment donné, savez-vous, je suis arrivé au point où j'ai prié cette prière-là, qui est, « Seigneur, si c'est moi le problème, dis-moi là, je vais m'en aller. » Et j'ai sincèrement prié cette prière-là. Mais finalement, je suis resté. Ça ne devait pas si pire. Et finalement, la jeunesse a bien été, tout ça, mais... Pour moi, un des trucs, quand je me suis retrouvé là, que je voyais toutes ces divisions-là et ces compartiments-là, un désir pour moi, c'était de dire, « Hey, non, on peut faire quelque chose ensemble. » Et avec un autre leader de jeunesse, qui est encore un ami aujourd'hui, quelqu'un que j'apprécie énormément, on a démarré un mouvement qui s'appelait Contre-Courant, où une fois par mois, on réunissait toutes les jeunesses de toutes les églises, peu importe la couleur, la dénomination, tout ça, pour se rassembler autour du nom de Jésus. Ce qui n'était pas permis, c'était que tes préférences, tes différences, les trucs que toi, on est en chicane pour, tu les laisses à la porte. Garde ça pour chez vous. Continue de te penser bon chez vous. Et pensez que c'est toi qui détiens la vérité. Mais ici, quand on se rassemble, on va à l'essentiel. C'est autour de Jésus. Et pour moi, encore aujourd'hui, je travaille à ça. Et encore aujourd'hui, c'est un désir que j'ai de pouvoir... Aujourd'hui, j'ai des amis dans tous les mouvements possibles, pour vrai. Et je travaille avec un paquet de monde à essayer de rassembler ces gens-là. Et pour la prochaine saison de ma vie, c'est une des choses que je vais m'appliquer à faire. Parce que j'y crois profondément. Parce que cette prière-là de Jésus qui n'est pas répondue, pour moi, il y a un problème. Et malheureusement, on ne s'attarde pas à vouloir l'accomplir. Des fois, on fait plus l'inverse. Et ce matin, trois choses. L'unité, dans la simplicité, dans la passion et dans la joie. Pour Mosaïque. L'unité dans la simplicité. Dans Galates 3, 28, ça dit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Et il y avait cette tension-là, même dans la première église, il y en a qui voulaient retourner, il y en a qui étaient plus encore dans leur mode très juif, et on fait des exclusions. Et Paul est arrivé, il dit, il n'y a plus personne, il n'y a plus... Et j'aime cette idée-là, ce qui me fascine, c'est qu'encore aujourd'hui, on fait de la discrimination quand, il y a 2000 ans, la Bible est claire, il ne devrait pas y en avoir. Il ne devrait pas y en avoir. Parce que tous sont un en Jésus-Christ. Plus l'esclave, plus c'est pas une question, t'es libre, t'es esclave, t'es femme, t'es homme, t'es, peu importe, t'es quoi? Tous en Jésus-Christ. Jim Tisby a dit, l'Église a besoin d'un charpentier de Nazareth qui va déconstruire la maison du racisme qui a été construite et la rebâtir en une maison pour toutes les nations. Wow! Moi, je ne peux pas concevoir aujourd'hui que dans certains milieux chrétiens, on fait encore de la ségrégation, on fait encore du racisme, on met des gens à côté. C'est anti-biblique. Non seulement ça, ça veut dire quoi? Selon moi, c'est diabolique. Parce que c'est contre le cœur de Dieu. C'est complètement à l'opposé de ce que Dieu veut. Dans Tite, le chapitre 3, les versets 9 à 11, ça dit, « Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, condamnant ainsi lui-même. » Ici, ça dit, il fait... Toutes les discussions, les spéculations, peu importe les conflits relatifs à la loi, ça, toutes tes préférences, il dit, mais éloigne-toi de ça. Tout ce qui est nuisible, tout ce qui va causer la division, éloigne-toi de ces gens-là. Et des fois, malheureusement, je trouve qu'au lieu de s'en éloigner, on s'en rapproche. Tu as raison, et ça. Et là, on embarque dans un mouvement, des fois, de quelque chose qui va mener nulle part, qui ne mènera pas à construire quelque chose. Mais Dieu nous appelle à construire l'unité. La simplicité, c'est que Dieu veut qu'on s'aime. Ça, c'est pas compliqué, ça. Non, mais sérieux. Mais nous, on tend à vouloir compliquer ça, compartimentaliser. Il y a des types de chrétiens. Là, tu es rendu où dans ta foi? Toi, telle affaire. Toi, tu as plus de péché que l'autre. Toi, tu n'as pas la bonne couleur de peau. Toi, tu n'as pas le bon rang social. Toi, tu n'as pas la bonne job. Toi, tu ne fais pas assez ci. Toi, tu n'es pas assez spirituel. Toi, tu es... Et on essaie juste de mettre des compartiments partout où Jésus, lui, n'en voit pas. Mère Teresa dit, seulement l'humilité va nous conduire à l'unité et l'unité va nous conduire à la paix. C'est fascinant parce que je connais pas une personne qui ne veut pas être en paix, pour vrai. Et aujourd'hui, on vit dans une société en plus qui parle énormément présentement des gens qui ont des troubles anxieux. Et tout le monde cherche à être en paix. Je ne sais pas pour vous, moi ça fait partie des top 5 de mes choses prioritaires dans la vie. Être en paix. Être en paix avec moi-même, ça c'est déjà beaucoup. Être en paix avec Dieu et être en paix avec les autres. Mais ici, c'est cette idée-là que pour arriver à cette paix-là, c'est... De travailler à bâtir l'unité. Et Mère Teresa a tout à fait raison, c'est l'humilité, parce que souvent, ce qui cause la division, c'est jamais l'humilité. C'est pas mal plus l'orgueil. Mais ça prend beaucoup plus d'humilité de penser par-dessus des fois mes préférences, par-dessus des choix, par-dessus des préconçus, par-dessus des dogmes, par-dessus ce que moi j'ai établi comme principe, par-dessus une théologie plus qu'une autre, par-dessus une philosophie d'Église plus qu'une autre, pour être capable d'arriver à l'unité. Deuxièmement, l'unité dans la joie. Alors bien, ce matin, c'est quand même, ça aurait pu être très lourd comme sujet, mais ça va être le fun. Je vous le dis. Il n'y a pas de code QR, mais quand même. Deux Corinthiens 13, 11 dit, « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez, vous perfectionnez, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » C'est quoi qu'on n'a pas compris dans ce passage-là? Non, mais pour vrai. Parce que là, la dernière partie du passage, Amen. Je ne fais pas lever les mains parce que vous allez lever tout le monde, toutes les deux mains. Parce que ce qu'on veut dans notre vie, c'est que le Dieu d'amour et de paix soit avec nous. Pour vrai. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche. J'espère que c'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Pour que le Dieu de paix et d'amour soit avec nous. Mais ici, Paul nous dit comment y arriver. On dirait des fois, on ne lit pas tout au complet. Soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix. Il est là le point. Pour avoir la paix, il faut travailler à la paix. Principe élaboré. De travailler à la paix. Et c'est là que tu vas arriver à la paix. Et l'unité se bâtit dans la paix et dans la joie. Il n'y a pas personne qui dit on est dans l'unité, mais je suis en colère. Vrai, non, mais vrai. Quand on est unis, quand on est avec des gens, tu sais, une famille unie, ça fait une belle photo de famille, ça. C'est une carte de Noël. Ça, c'est une belle famille unie. Le monde a le sourire, ils sont contents d'être ensemble. On devrait être contents d'être ensemble ce matin. Même si on n'est pas d'accord avec tous les points de l'autre, de mon voisin, de sa vie, d'un paquet d'affaires, on devrait être contents. On devrait être dans la joie et chercher à nous perfectionner, nous encourager les uns les autres en vivant en plein accord dans la paix. Romains 12, versets 17 à 21, ça dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Wow! Là, je sais déjà dans votre tête, il y a des noms qui popent, il y a des visages. Des gens que ça ne le fait pas, là. Peut-être que secrètement, même dans votre sous-sol, vous avez un poster avec des visages de personnes, puis vous jouez au dard. Moi, il y en a qui le font pour vrai, là. Non, inquiétez-vous pas, j'ai pas ça dans mon sous-sol. Mais c'est assez demandant ici, dans la mesure où ça dépend de moi. Parce que souvent, justement, dans l'idée de l'unité ou les conflits, les chicanes, c'est tout le temps l'autre qui a tort. C'est tout le temps l'autre le problème. Parce que j'ai raison. Je détiens la vérité. Mais l'autre, il ne comprend rien, là. Ça ne marche pas, ça ne le fait pas, là. Mais ici, Paul dit, non, attends un petit peu. Si cela est possible, ben, c'est pas toujours possible. Dans la mesure où cela dépend de qui? Pas de l'autre, de toi. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc, dans ton effort de vie personnelle, efforce-toi dans ta vie d'être le plus possible en paix avec tous les autres. Si l'autre personne ne veut pas être en paix avec toi, c'est son problème. Mais ce n'est pas le tien, si toi, tu as fait tous les efforts nécessaires. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit... C'est à moi qui appartient la vengeance, c'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Toi, fais le mille de plus pour la paix, pour l'unité. Tout ce que tu as... Au final, fais comme j'ai tout fait ce que je pouvais faire, je ne peux plus rien faire d'autre, mais malheureusement... ça ne le fait pas parce que l'autre personne ne veut rien savoir. Les autres, à ce moment-là, ce n'est plus ton problème. Toi, tu as donné à manger à ton ennemi, tu as donné à boire, tu as décidé de faire le bien là où on te rendait le mal. Mais à ce moment-là, Paul dit, c'est Dieu qui va s'en occuper. Laisse-lui s'en occuper. Venge-toi pas toi-même. Et ça, on va se le dire, pour toutes les gens qui ont des photos et qui lancent des dards, c'est pas facile à faire. Même ceux qui n'ont pas de photos et pas de dards, c'est pas facile à faire non plus. Pour vrai. Parce que quand quelqu'un nous fait du tort, quand quelqu'un nous fait du mal, quand il y a quelque chose qui est dit, qui nous blesse, il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire parce que ça ne cadre pas dans ce que nous, on s'est donné comme code de valeur, notre théologie, notre ci, notre ça. Mais ça vient nous chercher. Puis on a plus le goût de se faire vengeance nous-mêmes. On a plus le goût de dire, « Hey, ça ne fonctionne pas comme ça. » On a plus le goût d'aller... Et malheureusement, des fois, on contribue plus à détériorer des relations qu'en améliorer par notre comportement. Bob Goff a dit, « Il y a une différence entre aimer Jésus et être comme lui. » Il a dit qu'on ne pourrait jamais être comme lui à moins que nous aimions nos ennemis. J'avais dit que c'était le fun, mais là, c'est peut-être le bout de plate, là. Parce que là, ça nous rentre dedans. Et on va être honnête, c'est pas le genre de truc qu'on se rappelle le lundi matin, on pense pas à ça, là, aimer nos ennemis en rentrant au bureau. Non. Mais pourtant, ça fait partie des priorités de Jésus. C'est ce qu'il a fait. Quand il était à la croix, il a dit, pour les Romains, tous les gens qui l'ont accusé, tous les gens qui l'ont faussement crucifié, il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Wow! Et c'est bien de venir à l'église pour chanter des chansons, puis d'avoir un moment de louange, je dirais, je m'approche de Jésus, mais si je m'approche de Jésus, et que je veux être plus comme lui, bien, ça veut dire que je vais finalement aimer mes ennemis. Je vais finalement travailler à la paix. Je vais finalement travailler à l'unité. C'est ça que ça veut dire. C'est pas juste un feel-good moment, un moment où je me sens bien dans la louange, puis je repars chez nous, puis là, j'ai un petit nuage pour le début de la semaine, là. C'est supposé être plus que ça. Et le plus que ça, ça veut dire, bien, je me rapproche de Jésus. Si je me rapproche de son cœur, je vais aimer ce qu'il aime, je vais vouloir être à sa ressemblance, puis être à sa ressemblance, bien, ça veut dire aimer mes ennemis. On continue. On va finir, là. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 20, l'apôtre Paul va poursuivre en disant, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeait pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quand Jésus est parti, puis il a commissionné ses disciples d'aller de faire des disciples, une des choses qu'il leur a donné et qui, par la bande, nous a donné, c'est que le ministère de la réconciliation. Et trop souvent, j'ai plus l'impression qu'on fait partie du ministère de la division que du ministère de la réconciliation. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Et malheureusement, j'ai trop entendu de trucs qui n'ont pas de sens, qui sont abominables au nom de Jésus. Et des fois, je pense qu'on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas parler. Ça fait juste zéro sens. Puis et les gens sont convaincus à 100%. Ça ne marche pas. Ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Ça ne cadre pas avec le cœur de Dieu. Mais toi, tu dis que c'est ça que Dieu veut. Come on! Come on! Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. D'aller vers les gens pour les réconcilier avec Dieu. Essentiellement, c'est ça qu'on est appelé à être et à faire. Monsieur Balthazar, je ne dirais pas le... pas très bon, ça a l'air de l'allemand, mais... Von, je suis correct, là. Eux, je suis pas sûr. Même si une unité de foi n'est pas possible, une unité d'amour l'est. Ouf! Même si une unité de foi, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes ici ce matin, vous avez, on pourrait dire pour quelle raison vous êtes à Mosaïque. Et peut-être qu'on n'aurait pas nécessairement sensiblement les mêmes réponses. Mais probablement que sur plein de points dans notre foi, notre relation avec Dieu, on n'est pas à la même place. On ne pourrait pas dire, hey, là, on est complètement unis, on est sur la même page, sur la même longueur d'onde. Non. Le point, ce n'est pas d'être unis dans nos préférences, dans nos façons de voir ou dans notre propre vérité. Le but, c'est d'être unis dans l'amour. C'est ça le point. D'être unis dans l'amour. Ce qui nous conduit au troisième point, l'unité dans la passion. Parce que quand on parle de passion, on parle d'amour. Vrai? Je sais que la Saint-Valentin, ça fait longtemps qu'elle est passée, mais ce n'est pas grave. Dans 1 Jean 4, les versets 20 et 21, ça dit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. » En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est quand même assez fort. Parce que Jean ici va dire, si quelqu'un dit, hey, j'aime Dieu, mais qu'il déteste son frère, c'est pas il est dans l'erreur, c'est pas il faut qu'il se reprenne, c'est un menteur. Il aime pas Dieu. Jean dit, il aime pas Dieu pour de vrai. Ouf! À tous ceux qui lancent des dards sur des photos. Ouf! Si tu détestes son frère, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Du moins, tu ne l'aimes pas comme tu devrais l'aimer. C'est fou pareil, là. Et c'est fou pareil. Quand on lit un passage comme ça, on se dit, ça fait longtemps que je ne t'ai pas passé dans 1 Jean. Hein? C'est le genre de passage qu'on lit vite. C'est jamais pour nous autres, ça. C'est le temps de passage qu'on pense à quelqu'un qui déteste quelqu'un. Ah ouais, Jean-Claude. By the way, je ne connais pas Jean-Claude. Là. C'est le nom qui m'est venu. Mais lui, là, ça c'est pour lui. Il devrait lire ça, là. Ça y rentrerait dedans. Mais c'est jamais pour nous autres. Mais si on est honnête, encore une fois, il y a des noms qui popent dans notre tête, là. Il y a des gens, on aime, c'est pas vrai qu'on aime tout le monde, pour vrai. Moi, je n'aime pas tout le monde, je dis. Fait que je travaille à. Et quand je lis ça, ça vient me chercher parce qu'il fait, hey, dans tel, faut que tu fasses ton mille de plus encore parce que tu n'es pas arrivé là où tu devrais être dans ta vie. Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas son frère et qu'il aime Dieu, tu ne peux pas. Parce que comment tu détestes quelqu'un que tu vois, mais que tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Encore une fois, Bob Goff dit, l'amour n'est pas quelque chose dans lequel nous tombons, l'amour est quelqu'un que nous devenons. Cette expression-là, je suis tombé en amour. Et j'aime ça, cette idée-là, que ce n'est pas quelque chose dans lequel on tombe, ce n'est pas un état qu'on devient. On devient l'amour parce qu'en fait, Jésus, c'est ça qu'il est. Et si on prétend aimer, bien, il faut, si on veut prétendre vraiment savoir c'est quoi l'amour, bien, il faudrait aller voir le créateur de l'amour, savoir c'est quoi le véritable amour. On cherche aujourd'hui 150 définitions de c'est quoi l'amour, puis comment, puis là on réinvente, on redéfinit et tout ça. Mais on passe à côté de, hey, peut-être que si on allait voir la personne qui nous a aimé le premier, à quel point il nous a aimé, de quelle façon il nous a aimé, qu'il nous aime encore malgré qui on est, on ferait comme, ok, c'est ça l'amour. Mais si c'est ça l'amour, c'est cet amour-là que je veux dans mon cœur. Et si j'ai cet amour-là dans mon cœur, c'est cet amour-là que je vais reproduire autour de moi. C'est ce qui va émaner de moi parce que je vais devenir l'amour. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Dans 1 Jean 4, les versets 18 et 19, ça dit, « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais étrangement, trop souvent, notre discours de foi est beaucoup axé sur la peur. Les gens, des fois, ont peur de Dieu, ce qui est inconcevable. Et des fois, on s'éloigne de Dieu par la peur. On s'éloigne de l'Église par la peur. La peur du jugement, la peur d'être condamné, la peur d'avoir une étiquette sur notre vie, la peur de parce qu'il y a telle chose, si les gens savaient ici ça, et on fonctionne par la peur. Mais ça dit ici que l'amour parfait bannit la peur. Et ce qui brise l'unité, c'est la peur. peur de perdre quelque chose, peur que je vais me faire assimiler, peur que ce ne sera pas mes idées, peur que ce ne sera pas mes préférences, peur que ce ne sera pas ma théologie, peur que ce ne sera pas ma philosophie. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Moi, au secondaire, là, je vous ramène. Là, vous allez avoir, tantôt, j'ai fait des images de personnes en colère, les dards, tout ça. Là, on change de mood, là. Je vous ramène au secondaire. Votre premier crush. La première personne là, que vous faites comme... Et moi, je me souviens de cette première fille-là. Et moi, j'avais un crush sur elle, mais elle, pas zéro. Là, je sais ce que vous vous dites. Mais voyons, je ne savais pas ce qu'elle manquait. OK, si vous ne me connaissez pas, c'est la première fois. C'est une blague, là. Je ne suis pas invité moi-même. C'est juste parce que c'est trop facile. Mais un peu vrai, elle ne savait pas ce qu'elle manquait, mais bon. Et là, je l'invitais, je la complimentais, et je faisais des blagues et tout ça, puis ça ne marchait jamais. C'était non, 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 non. Elle avait juste un mot, non, quand c'était moi. Et c'est un peu frustrant, mais j'ai plein de défauts, plein de... mais je suis persévérant dans la vie. Ça pour ça, des fois, je ne lâche pas le morceau. Et j'ai continué. Puis là, vous dites, ouais, mais là, t'étais-tu agressant ou quelque chose? Là, on va mettre les choses au clair, là. Le pire causeur de la ville de Québec, c'est moi. C'est impossible. J'aurais été le pire candidat à OD. OK? Après une semaine, il m'aurait mis dehors parce qu'on dit, alors, toute la semaine, il était ami avec toutes les filles, mais il n'en a pas croisé une. Fait que j'étais même pas bon pour ça, mais j'étais juste des petits compliments, des petits trucs, rien d'agressant, rien, mais j'étais juste de temps en temps. Puis je faisais des blagues parce que c'est quelque chose que je suis capable de faire. Puis c'était non, c'était non, puis c'était non. Puis à un moment donné, là où je m'en attendais pas, où je pensais que je give up, ça c'est fini, ça ne marchera pas, c'est elle qui est venue vers moi. Ah, ben là tu sais, ben. C'est sûr, à un moment donné. Allume. Allô. Mais tout ça pour vous dire que c'est ça que Dieu fait avec nous. Avec douceur, il nous poursuit. Il vient vers nous. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. C'est pour ça qu'on est ici. Parce qu'un jour, Dieu t'a poursuivi par son amour. Et t'as fini par dire oui. Et ce matin, Dieu poursuit un paquet de gens qui ne sont pas ici. Et si Jésus t'a poursuivi comme ça, et que dans son cœur, ce qu'il veut, c'est l'unité, mais peut-être que c'est ce qui devrait t'animer, m'animer, d'aimer malgré le refus, le non, et de continuer et juste poursuivre. Être en paix avec le plus de monde possible. Dans Jean 13, les versets 34 à 35, ça dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Des fois, je suis dépassé à quel point on s'attarde sur un paquet d'affaires, des points, des virgules, pour en faire un cheval de bataille, dire, moi, c'est sûr que je tiens à ça. Quand ici, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça mon commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Et il va dire quelque chose qui devrait nous interpeller. À quoi les gens qui ne sont pas croyants vont reconnaître que vous êtes mes disciples? Pas un doctorat en théologie. Pas par toutes les œuvres bonnes que vous allez faire. Pas parce que vous avez plein de talents. Pas parce que vous avez une sagesse incroyable. Pas parce que vous êtes beau, vous êtes bien, vous êtes belle, vous êtes fine. Parce que vous vous aimez. Et 2000 ans plus tard, on n'a pas toujours compris ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Parce que le fondement de l'unité, la prière de Jésus, c'est « Aimez-vous les uns les autres. » Et vous pourrez continuer à lire le reste du passage. Il n'y a pas 45 pages de Il faut aussi faire ça. Il n'y a pas 50 règles pour dire que les gens vont nous reconnaître. Ce n'est pas les miracles, c'est rien, ce n'est pas une allocution, ce n'est pas le prédicateur en avant, ce n'est pas parce qu'on a une meilleure bande de louanges, ce n'est pas parce que c'est l'amour. Mais nous, on travaille, on met beaucoup d'énergie sur tout le reste, mais pas beaucoup sur l'amour. Et c'est ce qu'on a besoin de faire. Parce que si on poursuit Jésus qui nous a poursuivis, ce qu'on devrait poursuivre, c'est aimer les autres. Je termine avec cette citation. Jésus est venu apporter la bonne nouvelle d'un royaume inclusif lorsque trop souvent nous en faisons un club sélectif. Trop souvent, c'est ça qu'on fait. On est sélectif au lieu d'être inclusif. Parce qu'une des choses qui a démonté les chefs religieux à l'époque, c'est que Jésus a défait un paquet de tabous. Il était avec un paquet de gens qui n'auraient pas dû être à l'Église. Mais c'est avec ces gens-là qu'il a bâti l'Église. C'est fou pareil. Parce que Jésus les a poursuivis comme il nous a poursuivis et comme on devrait les poursuivre. Baissons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Et peu importe où on se situe, Seigneur, dans tout cela, chacun d'entre nous a ce désir, Seigneur, d'être rempli de ta paix, de ton amour. Et ce qu'on a besoin de comprendre, de saisir ce matin, c'est que pour avoir cette paix, cet amour, c'est à nous de poursuivre dans notre vie, dans notre entourage, dans nos relations, dans notre Église, de poursuivre, Seigneur, la paix et l'amour. Autant cela que cela puisse dépendre de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas un beau discours qui peut changer quelque chose, mais c'est ton esprit qui peut faire son œuvre. Et ce matin, c'est ce que je prie. Que chacun dans nos cœurs, on se sente interpellé, Seigneur. À mettre plus d'énergie. À bâtir l'unité dans la paix et dans l'amour. À briser, à exclure par des philosophies, par des préférences. Dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble, on va terminer avec un chant.